Bonjour Alexandre.
Bonjour Frédéric.
Donc, on vous accueille, Alexandre et moi, pour cette deuxième édition du podcast hebdomadaire sur le TechLash, qui sera un rendez-vous tous les lundis avec comme objectif d'essayer de décrypter, recenser les derniers soubresauts de ce qu'on nomme le TechLash, donc le Tech Backlash contre les GAFA, les big tech qui prennent de plus en plus de poids dans nos vies et qui, certains ont compris comme Amazon comment gérer ça, d'autres comme Facebook un peu moins. Et on va tout de suite commencer avec Alexandre, tu vas nous parler du risque géopolitique de ces réseaux.
Oui, donc le premier lien dont je souhaitais parler, que je souhaitais partager avec toi, c'est vraiment celui qu'a posté notre ami Christophe Lachnit, qui est l'auteur d'une lettre qui s'appelle Superception depuis de nombreuses années, qui fait en plus un podcast régulier de très grande qualité en France. Il a écrit un texte où il a apporté une synthèse sur les sujets dont on parle, à la fois en insistant sur le risque pour le débat, puisqu'il y a une approche un peu tocquevillienne. Il dit que s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie, et il dit qu'avec les réseaux sociaux, les débats vont être ou sont déjà complètement pollués ou ne peuvent plus exister avec une tentation et un succès pour les extrêmes de manipulation. Et dans le deuxième point de sa démonstration, il va encore plus loin dans la polémique, c'est qu'il dit qu'au fond, on ne peut plus choisir nos chefs, on ne peut plus choisir de leader, puisque, et c'est là où pour lui c'est un risque géopolitique, il y a des manipulations extérieures qui sont tout à fait possibles en exploitant simplement les qualités de la plateforme et en utilisant l'impact qu'elles ont quasiment de manière induite sur nos cerveaux. Et du coup, là aussi, c'est un danger pour les démocraties qui ne sont pas prêtes, pas organisées, pas structurées pour faire face à ce risque. Donc, il dit que c'est depuis le mur de Berlin le plus grand risque géopolitique qu'on ait connu, avec une vraie fracture entre les démocraties et puis ceux qui manipuleront les démocraties. Donc je pense que c'est un texte intéressant. Et il va, pour moi, nourrir, ou il contribuera à nourrir le débat sur le risque des big tech.
C'est très intéressant. Rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, tu es à Paris, je suis à Montréal. Moi, j'amène donc une lecture un petit peu nord-américaine à tout ça. On a en ce moment une espèce de psychose ici en Amérique du Nord qui gagne le Canada aussi sur ces manipulations. Je pense qu'elle est beaucoup plus avérée qu'elle ne l'est en France en tout cas. Et c'est assez intéressant de voir que la France est souvent citée en exemple ici comme étant le pays qui a su repousser ces tentatives de manipulation. On l'oublie un petit peu, mais il a été communiqué, je crois, c'est très peu de jours avant ou après le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, qu'il y avait eu des dizaines de milliers de faux comptes Facebook qui avaient été désactivés par Facebook de façon assez préemptive. Et les Américains de se demander si Facebook est capable de le faire pour la France, pourquoi vous ne le faites pas pour nous ici? Et c'est une question. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine, là, hier, je crois, dans Axios, que toi et moi, on lit assidûment, qui dit qu'il y a 62% des Américains sondés qui ne font pas confiance aux big tech pour faire ce qu'il faut pour préserver la démocratie.
Mais je crois que la Vox Populi a raison. Ce qu'on a vu dans le Brexit, ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on a vu dans l'élection allemande, ce qu'on risque de voir ce soir dans l'élection italienne, c'est des extrêmes qui manipulent des thèmes très forts. En Italie, c'est les migrants. En Angleterre, ça a été aussi les migrants. En Allemagne, c'est aussi les migrants, à des fins d'impact pour atomiser finalement un système politique qui fonctionne de manière classique. Il y a eu deux choses pour répondre à ta question sur la France. La France a eu la chance d'arriver un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de voir ce qui se passait et les gens qui étaient autour de Macron notamment étaient parfaitement au courant des méthodes d'intoxication et donc les ont prévenus. C'est-à-dire que le candidat même s'est exprimé pendant la campagne sur les rumeurs qui étaient lancées sur sa vie personnelle. Et par ailleurs, les partis avaient tous des cellules qui travaillaient là-dessus. Donc je crois que la France a eu son bon comportement parce qu'elle avait été instruite et parce que tous les candidats étaient instruits. Ça pouvait peser. Le deuxième élément, je pense, c'est qu'on a vu finalement des ensembles politiques qui ont aussi utilisé le numérique à leur profit, que ce soit la France insoumise ou la République en marche, ont essayé et d'ailleurs réussi à mobiliser sur les réseaux sociaux et concurrencer par là même les partis traditionnels, y compris les partis extrêmes. Donc on voit bien que c'est peut-être un cas un peu particulier. Puis le dernier élément, c'est que le système politique français est particulièrement robuste pour créer des majorités, ce qui n'aide pas non plus ces genres de manipulations qui fonctionnent beaucoup dans des démocraties plus parlementaires, ou en tout cas sur des scrutins un peu particuliers, avec indirect, comme ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé en Angleterre sur le Brexit. Je crois qu'on risque d'en reparler, et en tout cas, le fait que les élections soient en cause va avoir un impact, je pense, sur les législateurs. Et je crois que c'est aussi une bonne transition pour ton deuxième point sur l'Europe.
Alors, mon deuxième point sur l'Europe, c'est le fait que ces fameux GAFA, les FANG en anglais, on se rend compte de plus en plus que ceux qu'ils redoutent le plus, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne. Et ça, c'est assez intéressant. On a, dans le passé très récent, des décisions assez mastoc de l'Europe, avec des centaines de millions d'amendes à la clé contre les Google et Apple, etc.
13 milliards pour Apple.
Voilà, c'est pas rien. Et on se rend compte finalement que ce marché de 500 millions de consommateurs, il est plus que crucial pour les plateformes. Et là où ils peuvent, et ils le font, manipulent les politiques américains, hein, disons les choses, ils se rendent compte qu'ils ont un peu plus de mal en Europe. Et là, on a en mai, je crois, l'entrée en vigueur de la directive européenne sur la protection des données personnelles, qui va nous donner GDPR en anglais, qui va complètement rebattre les cartes. Alors, bref rappel. En Europe, il y a quelques années, je n'ai plus la date exacte en tête, il y a eu un cas qui est monté très très haut d'un Espagnol qui demandait le droit à l'oubli qui lui a été accordé par Google. Et quand tu te mets dans un contexte américain, c'est complètement inédit le fait qu'un législateur ou qu'une cour de justice ait réussi à contraindre un éditeur, puisque Google, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est un éditeur, à modifier l'algorithme pour donner le droit à l'oubli à un citoyen. Ce droit, apparemment, maintenant est devenu monnaie courante, hein, puisqu'il a été utilisé de nombreuses fois, il y a une tabulation quelque part. Il n'existe pas aux États-Unis, je pense qu'il n'existe pas au Canada. Et là, on voit finalement une espèce de frontière entre la protection des citoyens nord-américains versus les Européens, alors même que les Google, les Facebook, les Twitter, etc., ce sont pour la plupart, même quasi exclusifs, sauf Spotify, qui est le seul européen, ce sont des Américains. Donc là, on voit que Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence européenne, elle a finalement beaucoup plus de poids dans le quotidien de ces plateformes que n'importe quel sénateur américain, voire même plus haut. Et ça, je trouve que c'est intéressant.
Alors, je crois que c'est intéressant, et en même temps, il ne faut pas non plus, je dirais, idéaliser ce qui s'est passé en Europe. C'est d'abord parce que l'Europe est très encore ancrée dans des traditions nationales, notamment les Allemands qui ont une sainte horreur de l'utilisation des données, notamment la chancelière renouvelée qui a passé à la fois une jeunesse communiste et qui sait ce que veut dire le contrôle par la police nazie, comme le savent tous les Allemands. Donc, il y a une réaction épidermique en Allemagne contre tous les réseaux, contre toutes les plateformes, notamment concernant les données. Donc, je pense que c'est la fragmentation européenne et l'histoire européenne qui explique qu'il y a une méfiance absolument naturelle. Pour autant, il faut quand même constater que les GAFA sont d'une très grande force avec les démocraties un peu faibles et très faibles en face des régimes autoritaires. On a eu la preuve cette semaine, puisque Apple à finalement accepter la demande du gouvernement chinois d'avoir le cloud chinois pour les consommateurs chinois en Chine. Ce qui veut dire très clairement que le gouvernement chinois pourra avoir accès sans souci au cloud de ses propres concitoyens, sinon il n'y avait plus de marché chinois pour Apple. On voit exactement la même chose se passer en Russie, où à la fois il y a une puissance tech qui fait que les grandes plateformes russes, que ce soit en search comme Yandex, que ce soit en réseaux sociaux comme VKontakte, empêchent finalement les plateformes américaines d'exister. Et deuxièmement, on le voit dans un deuxième temps, puisque c'est derrière beaucoup de manipulations des grands hackers russes ou des organisations de hackers russes qui font la pluie et le beau temps. Donc en fait, les GAFA finalement profitent du régime démocratique, profitent du lobbying à outrance et se plient ou sont carrément battus dans les régimes autoritaires. Donc peut-être que le backlash viendra aussi de là, c'est-à-dire qu'on n'acceptera plus dans les années ou dans les mois qui viennent que finalement ce soit la loi du plus dictatorial ou du plus autoritaire qui gagne et que dans les démocraties, finalement, tout soit négociable, notamment les données des utilisateurs, ce qui est la bonne introduction à ton troisième point sur Gaspard Koenig.
Tout à fait. Donc, Gaspard Koenig et d'autres ont été à l'origine d'un manifeste très intéressant sur ce que Gaspard appelle la patrimonialité des données. Lui part du principe, en libéral classique, que les données qui appartiennent aux consommateurs devraient être monétisées finalement pour rétablir un équilibre entre le consommateur citoyen et les plateformes. C'est un débat très intéressant qui a été relayé en anglais par des universitaires anglo-américains. On peut penser que la France mériterait de s'y intéresser à ce débat parce que c'est peut-être une piste effectivement pour, comme tu dis, rétablir un petit peu les choses entre la masse des citoyens versus les plateformes. Je te rejoins complètement sur le backlash qui va monter, notamment des milléniaux et de la génération Z là, qu'on voit de plus en plus actifs en ce moment sur les réseaux pour essayer finalement de tordre le bras aux plateformes et à d'autres, comme là on l'a vu avec les armes à feu qui ne sont plus en vente aussi facilement par Walmart et par Dick's Sporting Goods. Le fait que Google, Apple et les autres ont des comportements pour le moins antinomiques par rapport à leurs valeurs, je pense que ça va poser un problème. Ça commence à le poser et on va voir de plus en plus de revendications de ce type-là.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les générations passées ou les nôtres ont été finalement prises de vitesse, prises de cours ou n'ont pas compris ce qui se passait. Et même, dans une mesure, Zuckerberg n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est ce que montrait très bien le papier de Wired qu'on a tous lu, dont on a déjà parlé. Alors que les millennials, finalement, réagissent immédiatement de manière médiatique. C'est ce qu'on voit très bien sur les histoires avec la NRA. Que finalement, ils sanctionnent. En tout cas, ils ont la capacité de mobilisation sur des réseaux sociaux que les générations actuelles n'ont pas forcément automatiquement. Et puis qu'effectivement, ils peuvent sanctionner, entraîner des mouvements de groupes. On verra la puissance de la manifestation qui va avoir lieu à Washington. Mais on a vu que finalement, le président le plus connecté, qui est quand même Donald Trump avec son compte Twitter, il a tout de suite senti le vent du boulet. Et à la différence de ses autres républicains, il a tout de suite tourné kazakh face à la montée des jeunes.
Donc, il a tourné kazakh très modérément puisqu'il a dit exactement le contraire le lendemain comme d'habitude. Mais oui.
Non, mais je ne suis pas suffisamment féru. Mais tu vois que la réaction était intéressante.
Tout à fait.
Et je dirais que par rapport à ce que disait Gaspard Koenig, que je connais moins bien que toi, mais je pense qu'il faut qu'on se penche sur son. Il y a un enjeu derrière qui est un enjeu économique parce que si jamais ces données appartiennent vraiment à cette nouvelle génération et à nous tous, comment allons-nous les utiliser? Comment allons-nous les valoriser? Qu'est-ce que ça signifie derrière? Et est-ce que ce n'est pas une des solutions, ou en tout cas une des pistes, que le backlash provoquera? C'est-à-dire, on va refuser d'utiliser les technologies, on va demander des contreparties, et il y aura une négociation. Et quelle est la nature de la négociation? Donc là, on commence à sortir du simple constat de difficulté du backlash, mais peut-être vers des solutions dont on parlera dans les semaines qui viennent.
Et ce sera le mot de la fin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Alexandre.
Salut, à bientôt.